Voici la traduction en français de la conférence numéro 5504-C13-SOPLS, intitulée « Les huit dynamiques ». Il s'agit d'une conférence publique donnée par Elron Hubbard le 13 avril 1955 aux États-Unis. Copyright 1955-1982, Elron Hubbard, tous droits mondiaux de reproduction réservés. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire ce soir, mais quelque chose va bien me venir à l'esprit. Et à ceux d'entre vous dans le public, qui sont des nouveaux venus, je dirais que ces conférences sont parrainées par la Fondation Hubbard de recherche dianétique et par l'Association internationale Hubbard des scientologues. Ces conférences traitent du comportement humain et de la résolution de quelques-uns des problèmes posés par le comportement humain. Il y a beaucoup de choses dans ces deux sciences, que sont la dianétique et la scientologie, qui résolvent des problèmes qui jusqu'ici sont restés sans solution. Parmi ces problèmes, l'un des plus communs est celui du quotient intellectuel, du QI. Tout le monde sait, entre guillemets, que l'intelligence est ce qu'elle est, et qu'on a l'intelligence qu'on a. Eh bien, chaque jour, nous autres scientologues, nous prouvons le contraire. Chaque jour. Il est très courant que des gens qui viennent chez nous une semaine gagnent 15 points de quotient intellectuel. C'est énorme, 15 points de plus, énorme. Même des gens qu'on classe normalement dans la catégorie des idiots gagnent un nombre de points similaire de quotient intellectuel. Donc, de toute évidence, on peut améliorer l'intelligence, et c'est pourquoi nous avons fait quelque chose pour surmonter cet obstacle qui était l'un des problèmes auxquels l'homme se heurtait depuis très longtemps. Quel est le niveau d'intelligence d'un homme? Eh bien, son niveau d'intelligence est fonction de l'auditing que nous lui donnons pour le rendre plus intelligent. L'auditing qui est l'application des procédés et des procédures scientologiques à un individu par un auditeur qualifié. Mais voilà pour nous une question mineure. Il y a une autre question que nous avons résolue avec la plus grande aisance, c'est le problème du comportement. Donc, abordons-le. Prenons un individu hypercritique. Eh bien, un tel individu proteste avec véhémence et dans tous les sens contre la société et contre ses semblables, au point qu'il en perd le sommeil et qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il pense que c'est la société qui cloche, et qu'il doit donc protester avec violence contre elle. Eh bien, avec un peu d'auditing, on peut très souvent amener cet individu hypercritique à un niveau où il devient pratiquement raisonnable. Est-ce que cela veut dire que nous auditons quelqu'un pour le faire sombrer dans l'apathie et lui faire accepter son environnement? Non. En fait, un individu hypercritique se trouve d'ordinaire déjà au-dessous du niveau de l'apathie, et les problèmes contre lesquels il pousse de hauts cris n'existent pas. Il invente des choses contre lesquelles pousser de hauts cris parce qu'il ne perçoit pas vraiment les choses de son environnement auquel il faut vraiment remédier. Quelqu'un qui est relativement en bonne condition pousse de hauts cris contre des problèmes qu'il est capable de résoudre. Voilà une attitude critique complètement différente. Personne n'a dit que nous ne devions pas critiquer la société, mais il y a tant de choses réelles à critiquer que nous trouvons plutôt amusant que des gens se mettent à critiquer des choses illusoires. Eh bien, nous pouvons résoudre cet état de choses, non pas en plongeant l'individu dans l'apathie, mais en l'amenant à un niveau où il devient capable et où il agit. Et l'individu cesse alors de se lamenter sur des choses irréelles. Vous savez, il se lamente parce que toutes les bananes de la ville sont en plomb. Je veux dire, ce genre de personne va se lamenter sur des choses aussi stupides que celles-là. Elle se cale dans son fauteuil et se met à pousser de hauts cris. Prenons notre organisation, par exemple. Il y a des gens qui se mettent dans tous leurs états parce que les scientologues font toutes ces choses terribles. Mais ils ne spécifient pas lesquelles. Aucun détail. Ils ne disent pas « quelle chose horrible ». Bon, il arrive que nos organisations aient tendance à faire preuve d'un manque d'efficacité, vu que l'homme a généralement tendance à faire preuve d'inefficacité. Mais il est intéressant de constater que ce type de personne se met dans tous ses états, par rapport à une de nos organisations, en lui attribuant des motifs et des actions imaginaires ou inexistantes. Donc si elle veut pousser de hauts cris contre l'organisation, eh bien dites-lui de venir et de parler à quelqu'un qui travaille à l'organisation et qui pourra lui montrer des choses contre lesquelles elle pourra pousser de hauts cris. Je veux dire, il y aura toujours des choses contre lesquelles elle pourrait pousser de hauts cris. Mais ce n'est pas contre ces choses-là qu'elle pousse de hauts cris. C'est contre des choses imaginaires. Eh bien, nous pourrions, au moyen de l'auditing, amener cette personne à un niveau où elle serait vraiment capable de reconnaître ce qui cloche avec l'organisation. Ce serait une sacrée victoire. Un but extraordinaire à atteindre. Il y a des gens dans ce pays qui sont terriblement en rogne contre le gouvernement. Et un peu comme ce prédicateur des États du Sud, qu'avaient fait venir les anciens de l'Église. Il arriva et donna un très beau sermon. Après quoi les anciens le considérèrent comme ministre permanent de l'Église. Après le sermon, il alla les voir et leur demanda ce qu'ils pensaient de son sermon. Et ils dirent « Eh bien, ma foi... » Et il dit « N'ai-je point parlé assez fort ? N'ai-je point hurlé assez fort ? Bien, c'est-à-dire que... N'ai-je point critiqué et craché suffisamment ?» Et l'un des anciens répondit, de toute évidence il était de connivence avec les autres, il répondit « Eh bien vous avez critiqué et craché, mais vous n'avez pas montré où est le problème. » C'est comme ces gens qui critiquent le gouvernement. Vous voyez, tout ça n'est qu'une histoire de mauvaises manières et de bouleversements mal placés. Vous auditez ces gens, vous les faites monter un peu sur l'échelle des tons, l'échelle des tons qui est l'échelle des états émotionnels, qui va de la mort tout en bas jusqu'à l'enthousiasme tout en haut, en passant par l'apathie, le chagrin, la peur, l'hostilité cachée, la colère, l'antagonisme, l'ennui et le conservatisme. Donc vous auditez ces gens, vous les faites monter un peu sur l'échelle des tons, et ils jettent un coup d'œil au gouvernement et sont capables de voir certaines choses qui clochent avec lui. Mais c'est la première fois qu'ils ont regardé. La plupart des choses qui, selon eux, clochaient avec le gouvernement, ne clochaient pas du tout. Très bien. Donc, où pouvons-nous amener l'individu en ce qui concerne les critiques? Nous pouvons l'amener à un point supérieur de l'échelle des tons, à un niveau où il serait capable de reconnaître quel est son rôle dans la société et de faire quelque chose pour résoudre ce qui ne va pas avec le gouvernement. Voyez ? Et c'est là que notre chemin, et celui du psychiatre, se séparent. Nous n'avons d'ailleurs jamais parcouru le même chemin que le psychiatre. Il nous arrive d'avoir pas mal de personnages douteux dans nos rangs, pendant un petit moment, mais jamais de psychiatre. Je veux dire, jamais il ne nous arrive de tomber aussi bas. Soit dit en passant, il y a des gens en Californie, ou d'autres voulez-vous que ce soit. Il y a des gens en Californie qui se mettent dans tous leurs états parce que j'éreintent la psychiatrie et la psychologie. Et quelqu'un au bureau ici m'a finalement dit pourquoi ils se mettent dans tous leurs états. Parce qu'ils voient que la psychiatrie et la psychologie sont incapables de présenter des arguments pour se défendre contre mes attaques. Mais c'est justement cela que j'essaye de montrer lorsque je les attaque. Maintenant, un psychiatre est quelqu'un qui regarde une personne active d'un œil très soupçonneux. C'est mauvais, d'être actif. Mauvais. Très mauvais. Quelqu'un arrive et dit « Bonjour docteur, comment ça va ?» Et aussitôt le psychiatre dit « Bonjour, belle journée, voyons un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. » Et si vous arrivez juste après que le patient est parti et que vous écoutez le psychiatre, celui-ci va dire « Psychose, maniaque, dépressive, avec des tendances schizophrènes. » Vous pourriez indiquer à ce bonhomme que le gars qui vient de sortir est le président directeur général d'une compagnie multimilliardaire et que la région dans laquelle elle se trouve est extrêmement prospère. Il vous dirait « Aucune importance, il est surmené. » Une fois pendant la guerre, je me trouvais à l'hôpital, allongé sur le dos, et quelques-uns de ces personnages sont venus me voir pour me donner tout un tas d'explications. J'étais dans un état où je n'aurais pas pu être plus immobile. La seule chose qui bougeait un peu chez moi, c'était mon cœur. Et ils m'ont dit d'arrêter de me surmener. Eh bien, le psychiatre considère quelqu'un d'actif avec beaucoup de méfiance. Et les psychiatres croient que si l'on amenait quelqu'un à un niveau où il verrait vraiment ce qui ne va pas, et où il se mettrait à agir pour corriger ce qui ne va pas, eh bien les psychiatres croient que les gens diraient que c'est révolutionnaire de faire ça. Que cette personne est surmenée. C'est absolument faux, parce que le gouvernement lui-même a absolument besoin d'avoir dans ses rangs et dans son entourage un nombre suffisant de gens actifs qui agissent pour corriger ce qui ne va pas. Et quand un gouvernement cesse d'avoir ce genre de personnes, il périt. De même, quelqu'un qui ne fait rien dans la vie pour corriger ou améliorer les conditions qu'il rencontre autour de lui, eh bien ce quelqu'un ne risque pas de réussir. Et si vous voulez une bonne définition du succès, la voilà. Une personne qui est capable de regarder autour d'elle, de voir ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à corriger, de voir les problèmes réels, et qui est capable de les résoudre, et qui les résout. Et cette personne est à peu près à 84 années-lumière au-dessus de la normale. Elle est à un niveau très élevé. Maintenant, vous avez ce gars qui se trouve à une harmonique, vous pourriez dire, qui se trouve à une harmonique inférieure à ce niveau qui est le niveau de la santé d'esprit, une harmonique où il imagine que beaucoup de choses clochent. Il est là devant une locomotive à vapeur, cette locomotive n'a pas de roues, elle n'a pas de charbon, elle n'a pas de chaudière, et il est debout là, il la regarde, et il commence à s'emporter contre cette locomotive à vapeur, et dit que c'est la chose la plus diabolique du monde. Chaque pièce de cuivre de cette locomotive est plaquée or. Quel gaspillage d'argent! Vous allez voir, et vous constatez qu'il n'y a pas de cuivre, et encore moins d'or. Mais la plupart des gens agissent de la sorte. Ils ne remarquent pas qu'il manque le charbon, les roues et la chaudière, ça ils ne le remarquent jamais. Tout ce qu'ils font, c'est se mettre dans tous leurs états. Voilà des gens qui sont incapables d'observer une condition. Ils évitent de regarder la condition, puis ils essayent de se représenter ce qu'était la condition, et il devient très difficile d'accomplir quoi que ce soit à partir de ce moment-là. Nous devons regarder autour de nous et trouver ce qui effectivement ne va pas, ou ce qui est vraiment en train de se produire. Nous devons être capables d'observer les situations réelles de notre environnement, puis faire quelque chose pour corriger ou améliorer ces situations réelles, et non autre chose. Donc, voilà où mène le fait d'être critique. Et il existe une échelle de l'esprit critique. Tout en bas, nous avons le niveau où l'individu ne se lamente même pas au sujet des choses imaginaires qui, selon lui, clochent, Oui, c'est l'apathie pure et simple. Au-dessus, nous avons les gens qui parlent de choses imaginaires, qui clochent. Il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas. Ils sont incapables de dire où elles sont. Et juste au-dessus, nous avons l'individu qui entrevoit que quelque chose ne va pas et qui est déterminé à découvrir quoi exactement. Au-dessus, nous trouvons l'individu capable de regarder et de trouver les choses qui ne vont pas. Au-dessus, nous avons l'individu qui non seulement regarde, mais sait qu'il peut corriger ce qui ne va pas. Et enfin, au-dessus, nous avons l'individu capable de regarder, de voir ce qui cloche, de trouver le remède et d'agir pour remédier à ce qui ne va pas. Et si vous aviez beaucoup de bonhommes de ce genre, vous auriez une société. Je veux dire, vous pensez avoir une société en ce moment? Bien non, vous n'avez pas de société. Là où notre chemin et celui de l'école de pensée du XIXe siècle représentée par la psychologie se séparent, c'est quand la psychologie dit que l'homme doit s'adapter à son environnement. La psychologie dit que l'homme doit s'adapter à son environnement, que son salut dépend de ce qu'il s'adapte à son environnement. Eh bien, regardez. En admettant qu'il y ait tout un tas de choses qui clochent dans l'environnement, cela voudrait dire, selon la définition de la psychologie, que ces mêmes choses devraient également clocher chez l'individu. Réfléchissez-y un moment. Si chaque habitant de sa ville a le dos brisé, l'individu est censé avoir le dos brisé. Eh bien, avec cette théorie, l'individu est complètement anéanti, réduit à rien, n'est-ce pas? Maintenant, notre point de vue à nous, c'est qu'un individu est en bonne condition dans la mesure où il adapte l'environnement à lui-même. C'est un point de vue complètement différent. Tout le monde dans sa ville a le dos brisé, il devrait donc faire quelque chose pour qu'il n'ait plus le dos brisé. Voyez ce que je veux dire. Nous considérerions un tel individu comme saint d'esprit, et nous considérerions l'individu qui s'adapte à son environnement comme un pauvre bougre. L'histoire de l'homme repose entièrement sur le bonhomme capable d'adapter l'environnement à lui-même. Donc le chemin que nous avons pris s'écarte très nettement de l'autre chemin. Mais comparons cela au fait d'être critique. Comparons cela à l'échelle de l'esprit critique que je vous ai décrit tout à l'heure. L'individu qui s'adapte à l'environnement ne critique pas l'environnement. Je veux dire, il est impossible qu'il critique l'environnement, puisqu'il s'y adapte. Ce genre d'individu dit « L'environnement est bel et bien réel. Tout ce que j'ai à faire, c'est me fixer dans le premier trou ou à la première cheville venue. » Eh bien, les sociétés n'ont pas progressé lorsqu'elles ont été aux mains d'individus de ce genre. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous désirez dans cette société à l'heure actuelle repose dans une certaine mesure sur le fait que des gens, ou vous-même, adaptent l'environnement à eux-mêmes. L'individu allongé passivement, qui se laisse piétiner, qui a plus ou moins suivi la file de voiture, heurtant celle-ci, rebondissant contre celle-là. Eh bien, voilà l'idéal. Voilà, pour le psychologue, la personne idéale. Se laisser entraîner et s'adapter à l'environnement. L'individu n'avance pas avec sa voiture parce que les autres voitures avancent. Non, non. Il avance parce que l'environnement est là et qu'il rebondit d'une voiture à l'autre jusqu'à ce que, finalement, il parvienne à quelques destinations. Il s'est complètement adapté à l'environnement. Maintenant, prenons cet individu et nous constatons que nous n'allons pas vraiment construire de société avec lui. Et avec cette philosophie, nous n'allons pas construire de société. C'est une sorte de cancer au milieu d'une civilisation active. Cet individu serait saint d'esprit s'il adaptait l'environnement à lui ou à son groupe. Ce qui nous mène vers un nouveau concept qui est complètement étranger à l'école de pensée freudienne et à la psychologie. Et soit dit en passant, la psychologie est bien plus vieille que la psychanalyse. La psychologie a pratiquement disparu au moment même où la psychanalyse a fait son apparition. Et l'école de pensée freudienne et l'école de pensée psychologue se basaient sur le principe du seul et unique. Je suis seul au monde. Principe selon lequel chaque personne dans la société se considère comme la seule et unique à exister. Ces deux écoles ne reconnaissaient qu'une dynamique. Une dynamique, c'est l'impulsion à survivre. Elles ne reconnaissaient qu'une dynamique, la première dynamique, qui est l'impulsion à survivre pour soi-même. Donc, quand le psychologue entend dire « un individu est sain d'esprit dans la mesure où il adapte l'environnement à lui-même », eh bien ce psychologue dit « ah non, ah non, c'est abominable, la civilisation va être remplie de fous ». Voyez pourquoi il croit ça. Pourquoi croit-il ça? Parce qu'il pense uniquement première dynamique. Chaque individu pense qu'il est tout seul sur Terre et qu'il n'y a pas d'autres individus. Et voilà un type d'attitude psychotique que le psychologue considère comme normal et acceptable. Eh bien, nous devons monter l'échelle des dynamiques et examiner la troisième dynamique. La troisième dynamique qui est l'impulsion à survivre par le groupe et pour le groupe. Nous devons monter l'échelle des dynamiques et examiner la troisième dynamique pour pouvoir comprendre le fait d'adapter l'environnement à soi. Adapter l'environnement à soi est très facile quand on l'adapte à la troisième dynamique, vu que la troisième dynamique est l'impulsion à assurer la survie du groupe. Et un individu qui fait partie d'un groupe, ou qui travaille avec un groupe, ou bien qui sert à un groupe, ou encore qui est servi par un groupe, eh bien cet individu est partie intégrante de ce groupe. Chaque individu a en lui la caractéristique de pouvoir travailler comme membre d'un groupe. Il a ce potentiel en lui, et en fait, l'homme n'est pas très heureux tant qu'il ne fait pas partie d'un petit groupe. Même le criminel. Le criminel doit avoir un gang. Quand nous disons que l'homme doit adapter l'environnement à lui-même, nous ne voulons pas dire qu'il l'adapte à tout un tas d'individualistes, à tout un tas de seuls et uniques au monde. Non. Nous aurions alors des conflits et des luttes perpétuelles entre les individus. Ce que nous voulons dire, nous voulons dire que l'homme doit adapter le milieu à l'homme. Voilà ce que nous voulons dire. Et nous avons étendu ce principe à la quatrième dynamique. L'impulsion à assurer la survie de l'humanité. L'impulsion de l'homme à survivre en tant qu'homme. L'homme a l'impulsion à survivre en tant qu'homme parce qu'il est un homme et parce qu'il y a des hommes. Et partout, il y a des individus qui travaillent à améliorer dans une certaine mesure l'homme et la survie. Et chaque individu cherche à améliorer la survie des groupes dont il fait partie. Et il existe un groupe plus petit, un groupe spécial, qu'on appelle la famille. Et c'est la deuxième dynamique. Et soit dit en passant, l'individu travaille aussi à améliorer sa survie individuelle quand il est très équilibré. Parce que le plus drôle, nous avons appris la chose suivante en génétique et en scientologie, cette histoire de survie. Comment voulez-vous avoir un individualiste, quelqu'un qui est le seul et l'unique au monde, si la survie, dans toutes les dynamiques, est si importante? Je veux dire, cette idée comme quoi nous sommes tous des individualistes, des seuls et uniques, comme quoi chaque bébé pense qu'il est le seul au monde, ce concept, bien que faux, c'est-à-dire avec ce concept du seul et unique, il nous serait impossible d'accepter le fait que l'homme est en bonne condition, dans la mesure où il est capable d'adapter l'environnement à lui-même. Voyez, il nous serait impossible d'accepter ce principe. Je veux dire, regardez. Chaque chauffeur de poids lourd que je rencontre, essaye d'adapter l'environnement à lui-même en tant que chauffeur de poids lourd. Chaque employé de bureau essaye d'adapter l'environnement à lui-même en tant qu'employé de bureau. Et chaque être humain que nous rencontrons essaye d'adapter l'environnement à lui-même. Donc il est évident que le concept du seul et unique ne peut pas marcher. Et le psychologue n'a jamais été capable de le reconnaître, et aujourd'hui il n'est toujours pas capable d'accepter, ne serait-ce que vaguement, l'évidence. Eh bien, examinons cela. Nous découvrons que l'individu ne va jamais mieux et n'est jamais plus heureux que lorsqu'il exprime un maximum de dynamique. Ce concept du seul et unique, de l'individualiste, est une plaisanterie sordide. Nous avons des concepts modernes en dianétique et en scientologie, nous avons beaucoup de concepts modernes, nous en avons tant que pour une personne éduquée en dianétique et en scientologie, il n'est pas facile de communiquer ce savoir à quelqu'un d'autre, parce que ce quelqu'un d'autre pense savoir beaucoup de choses, des choses qui sont très compliquées et pas forcément vraies, et parce que ce quelqu'un croit savoir toutes ces choses, il ne va pas accepter la moindre simplification de tout son bagage de connaissances. Par exemple, vous allez voir un toubib, et ce toubib a ce catalogue énorme de maladies, des maladies à n'en plus finir, il y a telle maladie, et puis il y a telle maladie, et voici un livre qui est consacré aux amygdales, et voici un livre consacré au maniement des scalpels, vous avez ce nombre incroyable de faits et d'étiquettes. Dans un autre coin, vous avez un livre qui décrit les parties du cerveau, le docteur pense connaître le cerveau parce qu'il connaît un tas de noms. Mais quand un patient vient le voir, ce docteur ne peut pas dire « abracadabra », mais il ne peut pas prononcer de paroles magiques qui rétablissent le patient et le rendent heureux. Non, il en est incapable. Alors pourquoi pense-t-il tout savoir sur le mental? Il est incapable de le changer. Mais il a cette énorme barrière d'étiquette. Et il trébuche sur ces étiquettes, vous voyez, il se heurte à cette multitude de lames tranchantes, il doit passer au travers de tout cela, et pour lui c'est impossible. Donc il s'assoit sur la lame la moins tranchante qu'il peut trouver, et il dit « Ma foi, il doit bien y avoir un spécialiste qui connaît tout ça. » Eh bien voilà le concept de l'individualisme du seul et unique à l'œuvre. L'un des meilleurs spécialistes du pays, le docteur Plattinger, m'a dit un jour, le docteur Plattinger est un spécialiste de la tuberculose, c'est pratiquement le seul que vous iriez voir aux États-Unis si vous souffriez d'une tuberculose, vous iriez le voir, et le docteur Plattinger mettrait ses mains sur votre poitrine, dirait, deux endroits affectés déjà, bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Il vous dirait de prendre le lit, d'aller vous coucher, et soudain vous iriez mieux. Rien que pour lui faire plaisir. Je ne plaisante pas. Les patients du docteur Plattinger n'osent pas mourir. Ça le fâcherait. C'est un excellent spécialiste et il m'a dit un jour dans son bureau « Il n'y a qu'une chose qui cloche avec la médecine aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes. Il y a de plus en plus de spécialistes et de plus en plus de spécialistes. » Et il a ajouté « Mais parmi tous ces spécialistes, nous trouvons rarement quelqu'un qui connaissent la médecine et les maladies. » Voilà ce qu'il a dit. En effet, chaque fois que vous allez voir un spécialiste, il est tout de suite persuadé que ce dont vous souffrez, c'est de la maladie dans laquelle il se spécialise. Vous allez voir un spécialiste, par exemple vous allez voir un phrénologue, comme on les appelle, c'est-à-dire un spécialiste du crâne, un spécialiste des fractures du crâne. Et vous allez voir ce spécialiste des fractures du crâne, et vous avez un doigt cassé, et vous lui montrez votre doigt cassé, et il vous parle de votre fracture du crâne. Ce qui, évidemment, ne nous mène nulle part. Mais c'est un spécialiste. Si vous souffrez d'une maladie quelconque et que vous allez voir un dentiste, il vous dira qu'il peut guérir votre maladie en vous arrachant toutes vos dents. Et il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont plus de dents. Vous dites à l'un d'eux, Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il dit, j'avais de l'arthrite. Je lui ai demandé, mais quel rapport ? Où l'avais-tu, ton arthrite ? Bien, à la jambe droite. Et je vous invite à examiner des jambes droites, et je peux vous assurer que vous n'y trouverez pas de dents. Donc, il nous faut examiner ce concept du seul et unique. Et il est important que nous l'examinions. En effet, si nous avions l'idée que chacun est un individu à part et que personne ne travaille avec personne, si ce n'est peut-être sous la contrainte ou la force, si nous disions que nous n'avons pas le désir inné de travailler ensemble, que faire partie d'un groupe n'apporte pas la moindre compensation, nous aurions finalement des gens qui seraient si éloignés de la réalité et si incapables de comprendre leurs semblables qu'ils envisageraient activement la destruction de la Terre et de toutes les créatures qui y vivent. Ce serait inévitable, n'est-ce pas ? Et il y a des gens qui ont été amenés à ce stade. Les gens se détachent de plus en plus de tous les autres. Eh bien, je ne peux pas dire quel est le rôle exact que cette philosophie appelée psychologie ou psychanalyse ont joué là-dedans, ce serait impossible à déterminer. Peut-être n'est-ce qu'un signe des temps. Toujours est-il qu'on a appris aux gens ce concept comme quoi l'homme est en bonne condition dans la mesure où il s'adapte à son milieu, et que l'individualisme est la seule chose que puisse exprimer un individu. Autrement dit, nous sommes tous des seuls et uniques, les seuls au monde, des individualistes. Et ce concept est tellement faux qu'il ne marche pas. Et si ce concept est continuellement formulé, qu'on le répète tout le temps, il finira par faire sombrer les gens dans la démence. Si vous ne me croyez pas, prenez un petit enfant et dites-lui tout le temps qu'il est le meilleur, qu'il a plus de responsabilités parce qu'il fait partie de cette merveilleuse famille, qu'il a plus de responsabilités que les autres enfants, qu'il est différent des autres enfants, qu'il sort d'une famille qui a un nom, qu'il a du talent, qu'il doit défendre ces choses, et qu'il doit prendre conscience qu'il est un Junker. Et tous les Junkers sont différents. Et ils ont quelque chose pour lequel ils se battent. Et s'il doit apprendre à étudier, c'est dans un but différent de celui des autres garçons. Et ce petit garçon sort, il va dans une ruelle sale, où des gamins sont en train de jouer, sont en train de se jeter de la boue. Et en jouant avec eux, il est couvert de boue, des pieds à la tête. Et ses parents le traînent à la maison et lui disent « Tu ne dois pas jouer avec ces garçons. Tu sais que tu es un Junker maintenant. Tu es spécial. » Et cette famille se demande plus tard, bien des années plus tard, pourquoi elle doit emmener cet enfant chez le psychanalyste qui de toute façon ne fera rien pour lui. Comment se fait-il que, proverbialement, les fils de riches élevés dans ce genre d'atmosphère deviennent des personnes difficiles ? Pourquoi a-t-on envoyé Loeb et Léopold en prison ? À cause de cette idée comme quoi ils étaient les seuls au monde, et on n'avait pas arrêté de leur dire « Tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul, tu es spécial, tu es spécial, tu es différent, tu n'es pas comme les autres garçons, tu ne dois pas faire partie de ce groupe. » Voyez l'effet que ce genre de choses a pu avoir sur eux. Un homme est vivant quand il participe aux huit dynamiques. Ce n'est qu'alors qu'il est vivant. Quand il participe aux huit dynamiques. Il existe huit impulsions vers la survie, et nous compartimentons chacune de ces impulsions en scientologie. Ce sont premièrement soi-même, l'impulsion à survivre en tant que soi. 2. L'impulsion à survivre par le sexe, l'éducation des enfants, le fait de subvenir aux besoins de sa famille, de la faire subsister. 3. L'impulsion à survivre en tant que groupe, tout groupe, quel qu'il soit. 4. L'impulsion à survivre en tant qu'homme, c'est-à-dire l'impulsion d'un homme à assurer la survie de tous les hommes. 5. l'impulsion a assuré la survie de toutes les formes de vie. Ou bien l'impulsion d'une forme de vie à survivre. 6. L'impulsion a assuré la survie de cet univers, lequel se compose de matière, d'énergie, d'espace et de temps. 7. L'impulsion à survivre en tant que chose spirituelle ou en tant qu'esprit, si vous voulez. Et enfin, 8. L'impulsion vers la survie de l'infini. L'impulsion à survivre vers l'infini. L'impulsion à survivre en tant qu'infini. C'est la 8e dynamique, la symbole de l'infini étant un 8 renversé. Nous pourrions l'appeler la dynamique de l'être suprême, si nous le voulions. Donc nous avons 8 dynamiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et imaginez maintenant que nous ayons ici 8 bâtons de taille égale et que leur longueur totale corresponde, disons, à ceci. Eh bien, plus un individu posséderait de bâtons, plus il serait vivant. Et nous disons à quelqu'un, tu es le seul et l'unique. Et nous fixons son attention en bas, et sur le bâton numéro 1. Nous avons immédiatement rendu plus flou le restant des bâtons. Il faudrait d'innombrables châtiments et de contraintes pour qu'une personne cesse complètement de participer aux autres dynamiques, mais l'homme y arrive très bien. Vous avez cette famille qui dit « Tu es différent, tu dois bien te conduire. Ce groupe n'est pas pour toi. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cet enfant ? Ils sont en train de le tuer. Ce n'est pas que l'individu a une troisième dynamique en plus de la première, non, pas du tout. C'est que cette troisième dynamique est quelque chose d'inné, qu'il possède naturellement et qui fait partie de la vie de tous les jours. Et si nous prenons cette dynamique et que nous la dénigrons, ou que nous l'enlevons, ou que nous l'émoussons, nous avons enlevé une grande parcelle de vie à l'individu. Admettons qu'un homme soit parfaitement vivant dans la première dynamique, mais qu'il ignore les 7 autres. Il serait à 1/8 vivant. 1/8. Et il ne verrait qu'1/8 de l'éclat des choses, et le mur, là-bas, ne serait qu'à 1/8 réel pour lui. Et il aurait donc 1/8 des responsabilités qu'il devrait assumer. Ce qui vous donne des criminels comme Loeb et Léopold, dont parle actuellement le Saturday Evening Post, qui soit dit en passant est devenu un journal vulgaire, alors qu'à l'époque, il avait des articles de qualité. Et le Saturday Evening Post a consacré une série de 4 articles à 2 bonhommes dont le seul don à l'humanité a été d'assassiner un petit garçon après lui avoir fait subir des sévices sexuels. Je ne pense pas qu'on puisse encore qualifier ce journal de journal, parce que si encore ils avaient fourni des informations sur la façon d'empêcher ce genre de choses de se reproduire, ou bien sur un remède qui corrigerait ce genre de choses dans le futur, leurs articles auraient eu quelque sens. Mais ce n'est qu'un fatras larmoyant de soi-disant faits destinés à titiller l'appétit des lecteurs. Maintenant, prenons quelqu'un qui est totalement responsable de lui-même, disons qu'il assume à 100% la responsabilité de lui-même, ce qui serait impossible, mais disons que c'est le cas, et disons qu'il n'assume pas la moindre responsabilité vis-à-vis des hommes, des chiens, des chats, des objets, des moments, des êtres vivants, des esprits. Il n'a la responsabilité de rien dans cet univers. Eh bien, vous auriez affaire là à un monstre abominable. Un monstre. Rien d'autre. Donc les individus qu'on amène à se retrancher uniquement sur leur première dynamique peuvent de temps à autre faire des choses monstrueuses. Ce n'est que lorsqu'on enlève la troisième dynamique que le crime fait son apparition, ne serait-ce que vaguement. Ce n'est qu'à ce moment-là que le crime fait son apparition. Nous examinons un criminel et nous découvrons que partout où il passe, il cause la mort. C'est tout. Voilà le don du criminel, la mort. Ce qui n'est pas un état d'esprit très réjouissant, et le criminel est une personne très malheureuse. Donc, quand nous amenons les gens à se retrancher sur la première dynamique uniquement, nous les amenons à un point où tout ce qu'ils apportent et tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est la mort, et rien d'autre. Merveilleux, non ? Si nous cherchions à imposer cette philosophie, comme quoi l'homme est un individu, rien d'autre, un individu et rien d'autre, qui n'éprouve aucun sentiment pour ses semblables, qui ne ressent aucune responsabilité pour eux, chacun pour soi, chacun toujours pour soi, si nous poussions uniquement cette philosophie, que nous l'inculquions à nos enfants, eh bien nous finirions par avoir une société de criminels. Lorsque Rome parvint finalement à faire régner cette philosophie, Rome périt. Il y a 2000 ans, Rome réussit à faire régner cette philosophie. Les Romains en arrivèrent à un stade où ils étaient tout à fait disposés à voir leurs semblables être déchiquetés dans l'arène par des bêtes sauvages. À la fin, Rome n'était plus qu'une bande d'individualistes, de seuls et uniques. Ils étaient fous, ces Romains, et extrêmement malheureux. Et ces fous possédaient un empire qui avait été construit pour eux par des gens sains d'esprit. Et puis ces gens sains d'esprit se sont mis dans la tête qu'ils étaient meilleurs que tous les autres peuples de la terre, et qu'il n'y avait qu'une chose qu'il valait le coup d'être, Romains. Tout le reste était méprisable, et Rome est devenue une sorte de composé de première dynamique. Et les Romains se sont distanciés des autres races de la terre, puis chaque Romain s'est distancié de la troisième dynamique romaine, et finalement Rome n'a plus été qu'une bande de criminels. Maintenant, il y a eu des gens qui n'auraient pas qualifié de triste la triste histoire de Rome. Et ces gens, ce sont les gens qui se faisaient grignoter par les lions dans l'arène. Il y eut des gens très enclins à ne pas être d'accord. Et ils furent si peu d'accord qu'ils renversèrent l'empire tout entier. Autrement dit, comment fait-on pour amener un empire à un point où il sera renversé ? Eh bien, enseigner simplement à chaque habitant de cet empire qu'il faut être un individu qui ne fait preuve d'aucune responsabilité vis-à-vis de ses semblables, produisez uniquement des spécialistes dans le domaine des sciences, n'enseignez pas les sciences humaines à un étudiant en physique, n'enseignez aucune science exacte à un étudiant en sciences humaines. Voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, nous produisons des ingénieurs incapables de maîtriser la langue française. Demandez qui était Candide, ils disent « Candide, hein ?» Ben oui, en effet. Ça me dit quelque chose. Ah, ça y est, je me rappelle au lycée. Il y avait cette phrase qu'on m'avait fait apprendre par cœur. Attendez, ça va me revenir. Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah oui, il faut cultiver son jardin. Ça y est, je me rappelle. Ouais, ces gens-là n'ont aucun sens de l'art. Et ils se retranchent parfois complètement sur eux-mêmes parce que ce sont des spécialistes. Ce sont des ingénieurs, ils sont au-dessus de choses comme les impulsions humaines. Et nous leur donnons des laboratoires, nous leur laissons construire des armes qui détruisent plus qu'ils ne sont capables de construire. Je le sais. Un jour, j'ai demandé à un ingénieur. J'ai vu toute une partie d'un désert, un très beau désert d'ailleurs, détruit par une bombe atomique. Dites-moi comme ça en passant, est-ce que vous pourriez faire sauter une autre partie de désert comme celle-là ? Et le gars a répondu. Oh oui, oui, bien sûr. Nous pourrions faire sauter toute une ville ? Et j'ai dit, mais c'est très intéressant ça. Et est-ce que vous pourriez construire une telle ville ? Il a été malade. Il est tombé malade. Quand je parle avec ces bonhommes, je n'y vais pas par quatre chemins. Et je ne crois pas que le gouvernement pense beaucoup à cet aspect de la question. L'éducation que reçoivent un très grand nombre de gens est déséquilibrée. Ce serait une bonne chose si les gens qui travaillent dans les sciences humaines comprenaient un peu mieux les sciences exactes. Les gens des sciences humaines disent, par exemple, « Eh bien, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un statisticien. Pour eux, un statisticien, c'est quelqu'un qui additionne des colonnes de chiffres et qui en fait la moyenne. Si l'on regardait vraiment de près ce qu'est un statisticien, on verrait qu'un statisticien, c'est beaucoup plus que cela. Ou bien ces spécialistes des sciences humaines disent « Nous nous servons d'une méthodologie scientifique ». Si vous preniez la méthodologie scientifique dont ils se servent dans les sciences humaines et que vous essayiez de l'appliquer à l'ingénierie, vous n'obtiendriez aucun résultat. Les trains ne rouleraient pas, les tunnels s'effondreraient, les immeubles s'écrouleraient, et toutes les canalisations d'eau ne seraient qu'une masse solide de bactéries. Les spécialistes des sciences humaines n'ont pas le sens des sciences exactes. Malheureusement, on rencontre une situation similaire dans les sciences exactes. L'ingénieur connaît très très mal les sciences humaines, très très mal. Ses connaissances sont très pauvres dans ce domaine. Donc, si les membres de la société ne font preuve d'aucun sentiment les uns pour les autres, s'ils ne trouvent aucun intérêt commun, eh bien la société commence à se désagréger et à devenir une série d'individualistes, de chacun pour soi. Et qu'est-ce qui se passe alors? Que se passe-t-il? Nous sombrons dans un âge des ténèbres. Voilà ce qui se passe. Parce qu'il n'y a plus la moindre communication. Bien. Examinons le côté positif de la chose. Qu'entendons-nous par dynamique? Nous entendons l'assemblage de toutes les communications possibles. Maintenant, réévaluons cette idée de dynamique. Une dynamique n'est pas une impulsion créée par une petite flèche qui vous transperce la tête. Ce n'est pas quelque chose qu'on met sur un graphique ou dans sa poche. C'est le désir de survivre dans une certaine direction et dans une certaine sphère d'action. Voilà ce qu'est une dynamique. Mais il y a plus important encore. Considérons les dynamiques comme un tas de communications possibles. Le plus drôle, c'est que vous êtes en bonne condition dans la mesure où vous communiquez. Intéressant, non? Et nous pouvons le prouver. Nous avons un triangle en scientologie qui s'appelle le triangle d'ARC. Certains scientologues terminent leurs lettres en disant « Reçois toute mon ARC, Georges ». Quelque chose comme ça. Que veut dire ARC? ARC veut dire « Affinité, réalité, communication ». Et ces trois sommets du triangle forment la compréhension. À votre avis, si tout le monde comprenait tout dans ce monde, y aurait-il une partie du monde qui en haïrait une autre? Si chaque partie du monde comprenait toutes les autres parties du monde, y aurait-il de la haine dans ce monde? Non. Absolument pas. Ce serait impossible. La compréhension se compose d'affinité, de réalité et de communication, et ces trois éléments combinés constituent la vie elle-même. Les potentiels et les caractéristiques de la vie sont contenus dans ces trois choses. Qu'entendons-nous par affinité? En fait, nous entendons considération de la distance entre deux points qui communiquent. Voilà ce que nous entendons par affinité. Si vous voulez, ce serait une définition scientifique de l'amour. Maintenant, sous l'affinité, viennent se ranger toutes les émotions et toutes les sortes d'efforts. Prenons la réalité, maintenant. À quel point ces choses sont-elles vraies, réelles? Autrement dit, quel est notre degré d'accord? À quel point sommes-nous d'accord pour dire qu'elles existent? Prenons maintenant le sommet C, c'est-à-dire la communication. L'aptitude à échanger avec affinité des idées concernant des réalités. Il est impossible d'échanger des idées concernant des réalités en l'absence d'accord, en l'absence d'affinité ou d'affection. Voyez ? Il nous faut une certaine affection ou affinité et un certain accord pour pouvoir communiquer. Et nous pouvons démontrer en scientologie que la communication est le solvant universel. C'est vraiment le seul et unique solvant universel. C'est fou ce que la communication peut accomplir. elle accomplit les choses les plus remarquables. Pendant que vous auditez quelqu'un, vous résolvez le facteur communication. C'est absolument extraordinaire de voir ce qui se passe. C'est vraiment un miracle scientifique qui se produit quand vous administrez correctement à quelqu'un de l'auditing qui résout le facteur communication. La preuve que la communication peut vraiment faire des choses extraordinaires pour une personne, c'est que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de communication, elle peut tomber malade. Bizarre, non ? Prenons un individu qui, théoriquement, ne communique pas. Il est allongé là comme un tronc d'arbre, pas la moindre communication. Et soudain, quelqu'un lui dit trois mots. Par exemple, « espèce d'imbécile ». Et le gars se dit « ça alors, j'en crois pas mes oreilles. Une source extérieure m'a envoyé quelque chose qui a une signification. Ah ça c'est précieux alors. Je vais maintenant consacrer ma vie à être un imbécile. » Voilà en fait le mécanisme des images mentales. La communication est si rare que l'individu prend l'image où on lui a dit ces trois mots et qu'il la serre à jamais contre sa pauvre poitrine de démon. Et il va s'accrocher à ces trois mots, à cette espèce d'imbécile, jusqu'à ce que vous, ou un auditeur, arriviez et lui demandiez « Comment ça va, Roger ? Comment ça va, Roger ? Je suis content que ça aille bien. Comment vas-tu, Roger ? Comment vas-tu, Roger ? Bonjour, Roger. Très bien, Roger. Comment ça va, Roger ? Et le gars va dire « Dis, tu sais, je n'ai plus envie d'être une espèce d'imbécile. Je suis Roger. Roger, c'est moi. » Donc nous avons ici quelque chose de si puissant que la moindre goutte, et ce n'est pas du tout comme avec les médicaments, une cuillère à café de strychnine peut aider quelqu'un, mais si vous lui en donnez un litre, vous allez le tuer. Une cuillère à café de strychnine aidera quelqu'un qui, par exemple, souffre du cœur ou quelque chose comme ça. Une cuillère à café de nitroglycérine, là la personne peut s'en tirer à la limite, mais si elle en prend un litre, elle n'a pas intérêt à éternuer. Mais avec la communication, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Vous donnez à quelqu'un une petite cuillerée de communication et il dit c'est bon ça. Et généralement, il ne reste pas plus de quelques cuillerées dans une société qui commence à ne plus communiquer. Il reste à peine quelques malheureuses cuillerées. Et je vous parie que la dernière fois que vous conduisiez votre voiture et que quelqu'un vous a dit « belle journée, n'est-ce pas ?» bien je vous parie que cela remonte à loin. Cela remonte à très longtemps. Vous étiez en train de conduire et un autre conducteur a sorti la tête au feu rouge, il a un peu sorti la tête de sa portière et il vous a dit « chouette journée, hein ?» Une dose de communication si petite que vous avez probablement cru qu'il était fou. Et après, vous êtes demandé ce qui clochait avec ce type. Très bien. Donc, la communication. Très importante, la communication. Dans une communication, il faut un certain accord, une certaine base d'accord. Autrement dit, il faut une vue des choses plus ou moins similaire si l'on veut que la communication soit possible. Il faudrait au moins que nous parlions la même langue. Bien sûr, parler n'est pas la seule façon de communiquer, mais si nous ne parlons pas au moins la même langue, nous aurons du mal à nous faire comprendre. J'ai parlé à des gens dont je ne connaissais pas la langue, et ça a très bien marché, de mon point de vue en tout cas, vu qu'à la fin j'ai fini par obtenir mon steak frites. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir communiquer, il vaut mieux parler la même langue. Maintenant, prenons le gars qui est complètement retranché dans sa première dynamique et qui ne participe à aucune autre dynamique, il va avoir beaucoup de mal à se faire comprendre. C'est comme le toubib avec son gros livre et toute sa nomenclature concernant le système nerveux. Il commence à vous parler de notre système nerveux automatique. Il réussira même à faire froncer les sourcils à un scientologue. Mais oui, c'est très simple, c'est facile à expliquer pourquoi elle est folle. C'est parce que son système nerveux automatique est gnarglouillé avec l'as de pique est que le gloupillon septentrional, au lieu des pages et des pages et des pages de diagnostics, il consulte des manuels, il prend des notes, il fait une analyse complète, il envoie un rapport deux fois plus gros que le livre qu'il a consulté, et la personne est toujours malade. Pourquoi ? Parce qu'il ne communique pas au sujet de la maladie de cette personne. Il ne fait que communiquer avec lui-même. Il n'a personne pour l'écouter. C'est une communication à un terminal. Un terminal, c'est tout ce qui peut recevoir, relayer ou envoyer une communication. Ce n'est rien qu'un tas d'étiquettes, et le docteur les comprend, mais pas le patient. Bien sûr, vous pouvez toujours impressionner un patient de cette façon, mais ce n'est pas ça qui le guérit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il faut de la communication pour qu'un patient se rétablisse. Il existe beaucoup de bons vieux médecins de campagne. Marie Dupuis arrive et dit « Docteur, j'ai à nouveau cette misère. » Il dit « Oui, où ça ?» Elle répond « Ben, ici, comme d'habitude, vieil abruti, au même endroit que d'habitude, allez, donnez-moi ma médecine. » « Dis, ma foi, est-ce bien ça? Je vous ai déjà prescrit pas mal de ce scotch, Marie. » Et elle dit « Je suis très mal en point. » Dit « Bon, très bien. Voici une ordonnance pour un flacon d'un demi-litre de médecine. » Et elle dit « Merci, elle s'en va. » Voyez, le docteur la connaissait, elle connaissait le docteur, et ils ont pu parler. Finalement, Marie Dupuis décide d'aller vivre à la ville avec sa fille qui a fait un bon mariage. Et ce besoin obsédant d'alcool la reprend, et elle va voir un spécialiste à Park Avenue, le quartier chic de New York. Et elle se retrouve à la fameuse clinique Mayo, et là, on lui enlève l'estomac. Elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle était allée voir un docteur à Park Avenue. On lui avait dit que c'était un bon docteur, mais elle n'a pas vu le docteur. Elle a vu l'infirmière. Et elle a vu d'autres infirmières, et puis elle a vu des techniciens qui l'ont fait passer au rayon X, et puis elle a vu d'autres techniciens, et elle n'a jamais eu l'occasion de parler à qui que ce soit. Tout ce qu'elle a vu, c'est des gens qui se déplaçaient silencieusement et qui actionnaient des manettes. Elle avait espéré que quelqu'un lui parlerait à un moment ou à un autre, et elle a finalement atterri à la clinique Mayo. Et maintenant, elle est en train de revenir à elle, encore sous l'effet de l'éther. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Pas de communication. Je me rappelle un gamin qui pleurait et qui faisait un tapage de tous les diables. Monsieur faisait sa colère. Il s'amusait comme un petit fou. Il y avait des invités. C'était nous les invités. Donc il hurlait et trépignait. Je suis allé le voir et je lui ai demandé « De qui veux-tu de l'attention ?» Il m'a regardé, il a dit « De toi ». J'ai dit « Très bien, tu as eu mon attention, maintenant tais-toi ». Mais quelqu'un l'avait compris. Mais ce que je veux dire. Maintenant, si nous créions un monde de spécialistes et que chacun d'eux était absolument persuadé d'être le seul au monde, nous aurions un monde de non-communication. N'est-ce pas ? Et ce monde serait capable de haine. Ce monde serait capable de se déclarer la guerre, et ce monde serait malade, parce qu'au mieux, il serait à 1/8 vivant. Donc examinons ces dynamiques, ces différentes impulsions vers la survie, et voyons en ces dynamiques une occasion de communiquer. Même au niveau de la première dynamique, il y a plus d'occasions de communiquer que ne le croit l'homme moderne. Contrairement à ce que croyait l'homme de jadis. Il y a cette chose appelée l'extériorisation. Qui aurait cru qu'il est possible à quelqu'un de se trouver à 1 mètre derrière sa tête? Nous ne parlions pas de mysticisme, de magie, de spirit, bref, de tout un tas d'intermédiaires. Non. Nous avons simplement dit à quelqu'un un jour, sois à 1 mètre derrière ta tête. Et il a été à 1 mètre derrière sa tête. Son corps est resté assis là, et sa personnalité est allée à 1 mètre derrière sa tête. Voilà quelque chose d'extraordinairement utile, mais cela nous a montré que nous n'avions jamais gratté le fond de la première dynamique, et que finalement nous y étions parvenus. Pour la première fois, nous avions trouvé la première dynamique. En effet, l'homme debout ou assis, là, en train de vous parler, est un être composite. Bien sûr, pour être sain d'esprit et rationnel, il possède une certaine partie de lui qui contrôle les autres parties. Mais en même temps, il n'est pas un. Il n'est pas un, il est composite. Il y a beaucoup de gens qui prennent la chose à l'envers et qui parlent de sauver leur âme. Leur âme, vous voyez. Sauver son âme. Comment voulez-vous sauver votre âme si vous êtes votre âme? Bizarre, non? Eh bien, cela fait longtemps que cela intrigue les gens. Et si vous ne me croyez pas, essayez de trouver une explication rationnelle dans les vieilles religions comme les Mazahis ou quelque chose comme ça. Donc, la véritable anatomie de l'individu n'a pas été vraiment comprise. Au lieu de cela, nous avons eu la psychologie et la psychanalyse qui croyaient que... Par exemple, la psychanalyse croyait qu'il y avait une personnalité fondamentale barbare et bestiale, et puis qu'il y avait le censeur, c'est très peuplé, la première dynamique en psychanalyse, surpeuplé même. Il y avait l'inconscient, le reconscient et le surconscient, et l'effet de rebond. L'effet de rebond, c'est en médecine. Bref, il n'y a eu que des absurdités. Mais nous avons découvert que l'individu n'est pas un. Il a un corps, il n'est pas un. La psychiatrie a cru jusqu'à présent que l'homme n'était qu'un, qu'il était une machine, qu'il était une espèce d'engin biologique qui distribuait des pensées, un peu comme un joueur de cartes distribue des cartes. Et durant les premiers jours de l'électronique, j'avais effectué des recherches dans le domaine des cerveaux électroniques, et quelque chose de singulier m'avait frappé. Dès que le technicien s'éloignait du cerveau électronique, celui-ci cessait ses calculs. Le technicien cessait de manipuler l'engin, et l'engin cessait de donner des réponses. Et j'ai donc parlé avec quelques-uns de mes collègues physiciens, je leur ai dit « Vous savez, c'est marrant, quand vous cessez de tripoter l'un de ces engins, il arrête de fonctionner. » Et l'un a dit « Ah ouais, tu crois ça ?» Et il m'a emmené voir un ENIAC qui est le premier ordinateur digital à avoir été construit en 1946. C'était la première fois que je voyais un ENIAC de près. Et le gars m'a dit « Regarde ». Il a pressé un bouton et il s'est assis. Et l'engin a commencé à débiter réponse sur réponse, à démêler des données, etc., etc. Nous sommes sortis et l'engin continuait sa chasse aux données, à y mettre de l'ordre. Et ce technicien m'a dit « Tu vois, cette machine est comme un homme, après tout. L'homme n'est qu'une grosse machine. Tu peux faire n'importe quoi avec lui, il n'a pas vraiment mal, tu sais. L'homme, c'est simplement une machine, une espèce de légume. Et cet engin correspond à son cerveau. C'est ça que nous devrions étudier. » Et il m'a donné toutes ses explications, et nous sommes allés dans l'autre pièce, nous avons bu un verre ou deux, et je lui ai demandé « À qui ta machine donne-t-elle les réponses ?» Dure comme question, non? C'était un technicien de deuxième ordre, et ma question lui a fait voir l'énormité de ce qu'il avait dit. Eh bien, des années après, j'ai découvert à qui le cerveau donnait des réponses, en admettant que le cerveau soit capable d'en donner. Il donnait les réponses à la personne à laquelle vous vous adressiez. Mais cette personne, qui se trouve dans un corps ou dans un cerveau, dit « Je suis un corps ou un cerveau ». Eh bien, tout ce qu'elle a à faire, c'est changer d'avis et dire « Je ne suis pas un corps ou un cerveau ». Et aussi, soit à un mètre derrière ta tête. Et elle sera à un mètre derrière sa tête. Elle cessera de se confondre avec une machine, elle sera capable de trouver les réponses toute seule, elle verra qu'elle n'est pas obligée d'aller les chercher dans un ordinateur, autrement dit, à tout moment, il y a quelqu'un qui fait fonctionner la machine. Identifier qui fait fonctionner la machine, faire prendre conscience à la personne qui elle est, et ce qu'elle fait, et quelle est sa nature, voilà qui relève tout à fait de la scientologie. Autrement dit, le scientologue ne travaille pas avec une machine. Il travaille avec celui qui dirige la machine. Et dès qu'il prend conscience que la machine marche bien, dans la mesure où celui qui la dirige est en bonne condition, il commence à obtenir de bons résultats. Il y a beaucoup de gens en Dianétique qui s'appuient encore sur le principe selon lequel tout ce qu'il faut réparer, c'est la machine. Je me rappelle une fois où nous avions préparé une voiture de course. Nous l'avions vraiment bien lustrée, nous avions réglé le moteur, mis de nouvelles bougies. C'était beau à voir comment le moteur ronronnait, un vrai régal. Et cette voiture attendait là, prête à partir. Et le conducteur est arrivé. Et juste avant la course, il avait été plutôt nerveux et l'un de ses copains lui avait fait boire un verre ou deux. Le gars était complètement saoul et il a essayé d'entrer dans la voiture. Vous l'auriez vu se démener. Finalement, nous avons réussi à le faire basculer par-dessus la portière et à le mettre derrière le volant. Et à votre avis, qui n'a pas gagné la course ? Pourtant, c'était la meilleure voiture du circuit. Mais la moitié du temps, le conducteur essayait de passer à travers la tribune. Mais si vous aviez lâché la voiture toute seule, en mettant quelque chose sur l'accélérateur, elle serait partie, et là, c'est sûr, elle serait rentrée dans la tribune. Donc, un conducteur saoul, c'était mieux que pas de conducteur du tout. Bien. Quand nous examinons tout cela, nous constatons que le but de l'homme n'est pas forcément d'être une partie inconsciente et impulsive de tout ce qui existe. Ça, ce n'est pas un bon but pour l'homme. Ce n'est pas un bon but que d'être contrôlé par tout ce qui vous entoure. Un bon but, c'est d'être une partie consciente de toutes les fonctions de la vie. D'être un participant conscient à toutes les fonctions de la vie. Et quand un individu est devenu si capable qu'il arrive à s'associer à n'importe quelle partie de l'existence, sans la moindre crainte et sans le moindre embarras, c'est qu'il participe à toutes les huit dynamiques et qu'elles sont toutes en communication les unes avec les autres. Et si vous aviez une race d'hommes comme celle-là, vous n'auriez pas de spécialistes. Vous auriez une civilisation. Merci.